Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition du 2 octobre, donc première émission du mois d'octobre 2017. Christiane Campagné avec vous au microphone, accompagnée de deux de nos voix de service du lundi, c'est-à-dire Roger Roy qui est de ce côté-là. Ceux qui ont écouté la semaine passée sauront que j'ai inversé un petit peu les prénoms. Et Serge Hamelin qui est juste là. Et puis c'est toujours pratique mimer à la radio et indiquer des choses.
Ouais, c'est ça, après.
Voilà. Mais nous, de toute façon, on fait une spécialité tout l'avant-midi de vous transmettre ce qu'on ne peut pas nécessairement voir, de vous transmettre cette information-là en vous lisant des extraits de magazines. Et messieurs, quels sont les sujets que nous aborderons?
Bon, alors on va avoir un sujet très sérieux, ça s'appelle le corps obsolète.
C'est une question grave ce matin.
Oui, c'est très grave, je vous en parlerai un peu plus tard. Et je vais vous parler d'Yvon Deschamps, c'est un homme un peu connu. Je vais vous parler de ce qu'on peut dire ou ne pas dire à la radio.
Ah ben c'est bon à savoir, mais
c'est bon pour nous autres.
Il sera peut-être trop tard.
Et moi, je vais vous parler de ce qu'un vendeur ne vous dira jamais. Ça s'appelle La Grande Séduction. C'est dans la revue Protégez-vous. Et après ça, je vais vous parler le dilemme du secondaire, privé ou public.
Alors, on répond à plein de grandes questions ce matin au Votre Service Magazine. Alors, est-ce qu'on plonge tout de suite dans le grand sujet grave?
C'est le grand sujet grave. Alors, en commençant. Là.
Les questions philosophiques du lundi matin.
Non. On va être prévenu ce qu'on peut dire ou ce qu'on ne peut pas dire à la radio.
Ah, OK, oui. Comme ça, on sera prévenu pour le reste de l'émission.
Tout à fait. C'est pour ça que je pensais que c'était une bonne idée. Libre de dire n'importe quoi à la radio. Hein? C'est un texte dans l'actualité du mois d'octobre. La nouvelle version, là.
La nouvelle
présentation. Signée par Naël Chiab. Voici ce dont il est question. Simon-Pierre Tremblay venait de rentrer de l'Université Laval à vélo. Il y avait de la neige et ce n'était pas facile sur les routes, raconte-t-il. Une fois au chaud chez lui, l'étudiant voit passer sur Facebook un extrait d'une émission diffusée plus tôt ce matin-là sur les ondes de Radio X à Québec. Au micro, en ce 10 décembre 2014, l'animateur Denis Gravel s'en prend aux cyclistes. Alors il leur dit ceci, un beau petit message tout doux. « Fuck you, tu sais pas vivre, t'as bien beau être en santé, t'as bien beau avoir des mollets gros comme ma tête, je m'en sac. Tu sais pas vivre, gros colon, gros cave, reste chez vous, tu mérites qu'un char te passe dessus. » Outré, Simon-Pierre Tremblay envoie un courriel au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, mieux connu sous le sigle CRTC, le tribunal administratif qui gère les licences de diffusion des stations de télé et de radio au pays. Je m'étais fait klaxonner le matin, alors si en plus il y a du monde qui jette de l'huile sur le feu pendant l'heure de pointe, explique le cycliste, ça va mal. Comme il l'apprendra plus tard, ce n'est pas le CRTC, pourtant tenu par la loi de s'assurer que la programmation est de haute qualité au Canada, qui traite les plaintes des auditeurs. Le tribunal a tout simplement transféré cette tâche au Conseil canadien des normes de la radio-télévision, le CCNR, qui est un organisme privé, financé par les radiodiffuseurs, qui n'a pas de compte à rendre au CRTC, quant au blâme qu'il adresse. Et oui, comme l'a découvert l'actualité, rejette presque toutes les demandes de jugement venant des auditeurs. Dans les jours qui ont suivi la tirade de Denis Gravel contre les cyclistes, les plaintes se sont mises à pleuvoir. Sur les 145 plaignants, 7 se rendront au bout du processus. Selon le CCNR, le fameux Conseil canadien des normes de la radiodiffusion, dans sa décision finale, l'expression « tu mérites qu'un char te passe dessus » exprimait un trop-plein de frustration à des situations comme le manque de civisme de certains cyclistes. L'animateur de Radio X sera finalement blâmé pour avoir dit « fuck you » en onde. La station est sommée de déclarer publiquement qu'elle a enfreint les normes de l'industrie en utilisant un langage grossier. Bon. Les 16 et 20 juillet, près de 8 mois après les faits, Radio X diffuse son mea culpa, durée totale 1 minute. Ce n'est pas de nature à éviter que ça ne se reproduise, se désole Annick Bouchard, qui comptait parmi les 7 plaignants. Radio X a été réprimandé dans cette affaire, mais les stations de radio du Québec se font de moins en moins souvent taper sur les doigts. L'actualité a épluché les rapports annuels du Conseil canadien des normes de la radio-télévision depuis 1994, alors que le nombre de plaintes a explosé depuis 5 ans, poussées attribuables selon l'organisme aux médias sociaux. Le nombre de blâmes est en chute libre. Sur les 1295 dossiers étudiés par le CCNR ces 5 dernières années, qui concernent en grande partie les radios de la ville de Québec, seulement 5 ont abouti à des blâmes. C'est 3 fois plus de plaintes qu'au début des années 2000, avec 3 fois moins de blâmes. La radio n'est pas une industrie médiatique comme les autres au Canada. Les ondes appartiennent aux citoyens. Et c'est le CRTC, Tribunal administratif public, qui décide en leur nom qui a le droit de diffuser ou pas. C'est aussi le CRTC qui, jusqu'en 1991, étudiait les plaintes des auditeurs. Toute réprimande était inscrite au dossier de la station et pesait dans la décision du tribunal au moment de renouveler une licence de diffusion ou même, dans des cas extrêmes, de la révoquer. Mais aujourd'hui, même quand un blâme est infligé par le CCNR n'a aucun pouvoir de contrainte. Il ne peut pas imposer d'amende ou exiger la modification d'une programmation. Il n'a pas non plus à informer le CRTC des blâmes qu'il dépose, un point négocié par les radiodiffuseurs en 1991, dit la présidente, qui s'appelle André Noël. Le tribunal a néanmoins accès aux décisions, soutient André Noël parce qu'ils n'ont qu'à regarder notre site web. Des relations très étroites entre le CRTC et le CCNR. On peut toutefois se demander si le CRTC se tient au courant. En 2013, au moment de renouveler la licence de Radio X, le tribunal qui a transféré au CCNR un grand nombre de plaintes concernant les propos tenus en ondes s'en inquiète. Le propriétaire de la station, RNC Media, rassure le tribunal public, c'est-à-dire le CRTC, la station s'est dotée d'un code de déontologie qui fonctionne puisqu'une seule décision défavorable a été rendue à l'égard de Radio X par le CCNR depuis le 31 août 2009. Pourtant, la compilation de l'actualité montre que de 2010 à 2012, le CCNR a adressé un blâme à Radio X à 6 occasions pour langage grossier, information fausse, atteinte à la vie privée, propos discriminatoires basés sur l'origine et sur l'orientation sexuelle. Dans sa décision du 26 septembre 2013, le CRTC ne note rien à ce sujet et renouvelle la licence de Radio X jusqu'en 2020. Pierre Trudel, professeur de droit à l'Université de Montréal et spécialiste à la radiodiffusion canadienne, de la radiodiffusion canadienne, rappelle que le CRTC s'est délesté de ses responsabilités quant au traitement des plaintes du public pour pallier un manque de ressources. Or, pour qu'un système d'autoréglementation fonctionne, dit-il, il faut que ça soit appuyé au second rang par un organisme de réglementation qui prend les choses au sérieux. Le fait que le CRTC ne soit pas informé des décisions du CCNR montre, selon lui, que ça ne semble pas beaucoup les intéresser au CRTC d'assurer un suivi sérieux de ces questions-là. Exemple, le Conseil a condamné, le Conseil de CCNN, CCNR plutôt, a condamné les propos de Pierre Mailloux, alias Doc Mailloux, à 8 reprises depuis 2003. Ce dernier, toujours en onde aujourd'hui, a déjà indiqué publiquement que jamais les blâmes ne le feraient taire. On n'a pas de prise sur les animateurs. On n'a de prise que sur les radiodiffuseurs, répond André Noël, c'est la présidente de l'organisme, lorsque l'actualité aborde le cas Mailloux. Quand un animateur se fait sacrer dehors par son employeur, il s'en va voir le concurrent et lui dit « Hey, je pourrais te faire avoir de belles cotes d'écoute. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, nous autres, au CCNR? » Mais alors, ça sert à quoi, le CCNR?
Bien, c'est ça, c'est que le CRTC a transféré un pouvoir qui n'en est pas un, finalement, puisqu'ils ne sont pas là derrière.
Ben, ce sont les radiodiffuseurs eux-mêmes qui décident. Là.
Voilà.
Un groupe.
Alors, après avoir parlé de ce qu'on peut dire ou ne pas dire, maintenant, ce qu'on ne nous dit pas avec Serge.
Ben oui, c'est ça. Ce qu'un vendeur ne vous dira jamais, parce qu'il aimerait bien se vendre, comprends-tu, et gagner de l'argent à notre dépens. Alors, dans la revue Protégez-vous, Céline Montpetit a écrit un article qui s'appelle « La grande séduction ». Qu'ils aient pignon sur rue ou qu'ils œuvrent en ligne, les commerçants ont plusieurs tours dans leur sac pour séduire leur clientèle et leur portefeuille. Comment éviter de tomber dans les pièges qu'on vous tend? Et comme toutes les futures mamans, Anne, qui est un prénom fictif, 35 ans, a eu besoin d'acheter des vêtements de maternité lors de sa première grossesse. « J'avais envie de me sentir coquette malgré mon gros ventre », se souvient-elle. Ce désir, les commerçants le connaissent comme le fond de leur poche et savent en tirer profit. Par exemple, la boutique que fréquentait Anne offrait presque toujours des rabais de type « achetez-en un » et obtenez le deuxième à moitié prix. Sauf que ce dont elle avait besoin, ce n'était pas d'un deuxième pantalon, mais plutôt d'un chemisier pour compléter sa tenue. Malgré tout, je me laissais tenter par un pantalon de plus en me disant que je l'avais à rabais, et je finissais aussi par acheter le chemisier. Résultat, Anne a englouti des centaines de dollars pour des vêtements qu'elle n'a portés que quelques mois. C'était en 2009. Vérification faite, plusieurs boutiques de vêtements utilisent toujours la stratégie du deuxième article à prix réduit pour faire sonner leur tiroir-caisse. Même si ce n'est un secret pour personne, les consommateurs tendent à oublier que tous les commerçants qui vivent de la marge de profit encaissée sur leur vente usent de plusieurs ruses pour les faire dépenser le plus possible. J'ai l'impression de les lire... L'histoire du petit chaperon rouge, mais avec le loup, là, tu comprends-tu? Et à l'heure où les ventes en ligne explosent, ces astuces s'adaptent à l'internaute. Désormais, ce ne sont plus seulement les vendeurs qui tentent d'influencer vos décisions d'achat, mais aussi des algorithmes qui pensent plus vite que vous. À la lumière d'aveux d'anciens vendeurs, protégez-vous. Propose ici une incursion dans les coulisses du commerce de détail, là où votre budget perd trop souvent. Le Nord. Alors, vous entrez dans un magasin. Ça, c'est le loup, hein? Non, je sais pas. Ou le chaperon rouge. Vous entrez dans un magasin avec un budget de 100 $ et vous en ressortez avec une facture de 200 $. Que se passe-t-il donc pour que vous dépensiez plus que prévu? Bonjour. Vous cherchez un ordinateur pour jouer à des jeux vidéo ou pour le travail? Voilà le type de question ouverte avec laquelle un bon vendeur devrait vous aborder. Son but, entamer une conversation avec vous afin de créer un lien et vous arracher une forme d'engagement puisque vous consentez à l'écouter, explique Frank Pons, professeur titulaire du département de marketing de l'Université Laval. Si le vendeur réussit à établir ce contact, une partie de la vente est déjà gagnée. Car inconsciemment, vous vous sentirez redevable envers lui, surtout si vous l'avez trouvé sympathique. Il peut alors mettre à exécution ses tactiques pour faire grimper la facture. Et parmi ces stratégies, il y a la vente incitative, upselling, dans le jargon marketing anglophone. Cette technique qui pousse le consommateur à dépenser plus est parmi les plus fréquemment utilisées selon Frank Pons. Par exemple, vous magasinez un manteau d'hiver et le modèle de base répond à vos besoins. Le vendeur tentera alors de vous convaincre d'opter pour un manteau plus cher en faisant valoir qu'il est de meilleure qualité. Prenez garde aussi au marketing croisé cross-selling qui consiste à vous faire craquer pour des articles complémentaires comme un chapeau et un foulard assorti à votre manteau. Des recommandations fiables? Une autre méthode infaillible consiste à oser proposer plusieurs fois le même produit à un client. Par exemple, le modèle d'ordinateur qui génère la meilleure marge de profit, raconte Pierre, prénom fictif, ancien vendeur d'appareils électroniques dans une chaîne spécialisée. Le consommateur finit par se sentir mal à l'aise de refuser et cela fonctionne presque à tout coup, à condition d'avoir pris le temps d'établir un contact chaleureux. Cette approche, confirme Frank Pons, répond aux besoins de désirabilité sociale qui conduit certaines personnes, soucieuses de plaire, à être plus enclines à dire oui que non. Par ailleurs, si un vendeur fait l'éloge d'un produit plutôt qu'un autre, c'est peut-être qu'il est motivé par des bonis, communément appelés SPIFs ou Sales Promotions Incentive Fund, offerts de manière officieuse par les représentants, poursuit Pierre. Dans mon cas, je recevais des cartes cadeaux échangeables dans des stations-service lorsque je vendais un certain modèle d'ordinateur. Je n'ai pas déboursé un sou en essence pendant plusieurs mois. Les cosmétiques sont un autre rayon où la clientèle se laisse séduire. Il y a de quoi, hein? Séduire par de bons conseils. Or, ce n'est pas toujours gratuit. Il nous arrivait de recevoir la consigne de vendre un produit plutôt qu'un autre afin de liquider l'inventaire, témoigne Stéphanie, qui est un prénom effectif, ex-employée d'une chaîne de magasins qui vend des produits de beauté. Une façon d'y arriver était de dire « Je pourrais vous proposer un produit coûteux, mais celui-ci moins cher est vraiment génial. » Ah, c'est bon ça. Cela mettait la clientèle en confiance et elle achetait le produit en question. Dans les électroménagers, ah, ça c'est le jeu de la concurrence. Laveuse, sécheuse, frigo et cuisinière. Voilà que Renault Dépôt en vend maintenant. Étant donné que ces achats essentiels représentent une dépense de centaines, voire de milliers de dollars, la plupart des consommateurs se donnent la peine de magasiner chez plusieurs détaillants. Ils comparent les prix et les marques afin de dénicher la bonne affaire. C'est pourquoi la tactique gagnante d'un bon vendeur est alors de brouiller le jeu de la comparaison. Raconte Paul, qui est toujours en prénom fictif, aujourd'hui agent manufacturier dans le domaine de l'électroménager et ancien formateur en vente au détail. Ainsi, plutôt que de baisser le prix d'un appareil de manière à égaler l'offre du concurrent, le vendeur attirera votre attention sur un modèle équivalent à celui qui vous intéresse. Même gamme et même fourchette de prix, mais d'une autre marque. Ce faisant, il vous empêche de comparer les prix, car il s'agit alors de deux appareils différents. Comment déjouer cette ruse? Exigez des détaillants qu'ils vous donnent un prix pour un même modèle. Ça y est, la minute fatidique. Après maintes tergiversations, votre choix est fait et vous êtes prêt à passer à la caisse. Cette étape est cruciale pour tout vendeur qui craint alors le pire, que vous succombiez à un épisode de dissonance cognitive, c'est-à-dire une prise de conscience durant laquelle vous réalisez avoir agi en désaccord avec votre intention première, par exemple de respecter un certain budget, explique Frank Pons. Le risque que le client change d'avis est accentué s'il croise en chemin vers la caisse, un autre modèle intéressant en solde ou moins cher. Vraiment le petit chaperon rouge. Alors, pour éviter un tel revirement, un vendeur habile vous suivra de près jusqu'au comptoir caisse, mais avec finesse et diplomatie, sans donner l'impression d'être harcelant. Vous serez alors moins porté sous son regard à changer d'avis, à moins d'avoir le courage de lui faire savoir que vous souhaitez poursuivre seul. Oh mon Dieu! Ce que peu de gens osent faire, commente le spécialiste. Alors un conseil, poursuit Frank Bunz, en toutes circonstances, si vous doutez de votre capacité à résister aux tentatives de persuasion, demandez qu'on vous laisse seul quelques minutes et prenez le temps d'évaluer si vous souhaitez vraiment acheter ou si vous vous êtes laissé embobiner. Vous pourriez être surpris du résultat et dépenser moins. C'est quelque chose, hein? Égare au rabais.
Oui, soyons vigilants. Et peut-être un dernier petit truc pour les gens qui aiment magasiner en ligne, pas nécessairement pour acheter en ligne, mais pour se documenter avant.
On va en parler dans ligne tantôt.
Oui, ouvrez une fenêtre privée dans votre navigateur parce qu'ensuite, toutes vos publications sur Facebook et les publicités sur les sites vont être liées directement au site et même au modèle que vous avez visité.
ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bâton qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grande mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. C'est fluctu ad nec mergitu, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et polux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la poésie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile ils l'avaient pas lu, mais ils s'aimaient toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confité or.
C'était la formation Cornu qui reprenait Georges Brassens, les copains d'abord.
Et Serge, vous nous avez parlé avant la chanson des sirènes des vendeurs, sirènes au sens...
Oui,
sirupeux.
Oui, c'est ça. en magasin, maintenant, on poursuit avec la séduction en ligne.
Oui, ben en ligne, le poisson au bout de la ligne, quoi.
Voilà.
Hein? Oh, mon Dieu. Alors, des achats en ligne, on vous épie. C'est effrayant. Lorsque vous magasinez sur Internet, des algorithmes, c'est un genre de bébite là, des algorithmes conçus pour titiller votre fibre dépensière sont à l'œuvre derrière l'écran. Est-il possible de les déjouer? Ah bon, d'accord. Alors, pour comprendre l'arsenal de charme du commerce en ligne, il faut savoir une chose. Lorsque vous naviguez sur Internet, vous laissez des traces un peu partout sur votre passage. Les sites que vous consultez déposent dans votre ordinateur des témoins. Ça s'appelle des cookies qui leur permettent de dresser un portrait de vos habitudes de consommation en mémorisant, par exemple, ce que vous lisez, les films qui vous intéressent, les publicités de voyage ou de voitures sur lesquelles vous cliquez, les pages Facebook auxquelles vous êtes adonné, etc., etc. Et sans compter tous les renseignements que vous fournissez de votre propre chef, adresse, numéro de téléphone, adresse courriel, lorsque vous achetez en ligne ou que vous vous abonnez à des infolettres. Un service plus que sur mesure. Tous ces renseignements permettent aux commerçants de semer votre profil de consommateur et de vous faire parvenir de la publicité ciblée qui correspond à vos préférences. Ainsi, une entreprise n'enverra pas nécessairement le même courriel promotionnel à une mère de famille monoparentale qui vit en région qu'à un jeune célibataire urbain, explique Arnaud Granata, éditeur du magazine Infopresse, publication spécialisée en communication, médias, publicité, design et marketing. À Transat, par exemple, nous disposons de plus de 6000 versions de courriels qui nous assurent d'adapter nos communications au profil de nos clients, indique Debbie Cabana, porte-parole de l'entreprise. À une famille susceptible de voyager pendant les fêtes ou la relâche scolaire, nous enverrons un courriel annonçant une promotion d'hébergement gratuit pour les enfants dans un forfait tout inclus. Alors qu'un couple de retraités, nous proposerons un vol vers l'Espagne ou passer l'hiver au chaud. Tentez le diable! Les techniques utilisées en magasin pour vous faire acheter un produit plus cher, vente incitative ou complémentaire, marketing croisé, sont aussi largement déployées en ligne, atteste Jacques Nantel, professeur émérite au département de marketing HEC Montréal. La grande différence, c'est que les algorithmes sont beaucoup plus performants que les vendeurs qui ne pensent pas forcément à vous proposer tous les produits susceptibles de vous intéresser ou qui ne peuvent vous offrir que les produits qu'ils ont en stock, dit-il.
Alors, nous sommes maintenant des consommateurs mieux avertis et on continue de vous renseigner comme ça en revenant de la musique, toujours en compagnie de Roger Roy et de Serge Hamelin, Christiane Campagna, qui vous dit à tout à l'heure.
Premier amour, premier baiser, le vent chaud du mois de mai. J'entendais tes rires courir dans l'air figé de l'été suffocant qui avait tout son temps. Ta blouse entrouverte, mon oreille sur ton cœur. Couché dans le champ, on avait fait le serment de ne jamais vieillir, de ne jamais mourir. Sous les cheminées, celle qui brûle jour et nuit. Sous les cheminées, celle qui brûle jour et nuit. Dans un pays encore à genoux, des noms de rues empruntés un peu partout. Boulevard Broadway, parc choc chromé, gang de quartier, vent de liberté. Cinéma qui se mire dans les flaques d'eau, qu'éclabousse aussitôt les rêves brisés. Semaine rapiécée en robe du dimanche qui refait le trajet protégé par les anges. Sous les cheminées, celle qui brûle jour et nuit. Sous les cheminées, celle qui brûle jour et nuit. Le Le fleuve était caché comme il a toujours été. Devant le restaurant, on traînait nos 15 ans. On regardait passer des cargos étrangers, baptisés de surnoms qu'on leur avait donnés. Chargés d'horizons de nos rêves déchaînés, chargés des soirées sans savoir où aller. Quand les yeux se ferment en quittant le rivage, quand les yeux se ferment pour garder cette image. Sous les cheminées, c'est qui brûle jour et nuit. Sous les cheminées, c'est qui brûle jour et nuit. Le soleil s'endort sur la lignée de wagons. Bien regarder, rien n'a vraiment changé. Derrière la fumée, maison d'ouvriers, les rêves oubliés, l'autre côté du fossé. Et le vent murmure entre les peupliers, le secret des mots à faire à la vie. Ne jamais vieillir, ne jamais mourir, même s'il fallait y laisser sa peau. Sous les cheminées, celle qui brûle jour et nuit. Sous les cheminées, celle qui brûle jour et nuit.
Sans doute reconnu Richard Séguin, Sous les cheminées.
Est-ce que c'est la version de l'album compilation d'Audiogramme pour l'anniversaire?
L'album c'est une 30? Excellente question, mais je pense que ce n'est pas la version originale.
Parce qu'il y avait plein de grands succès d'artistes d'Audiogramme qui étaient reprises sur un album anniversaire qui s'appelait 30. Alors, Christiane Capagnat, toujours avec vous, toujours avec Roger Roy et Serge Hamelin. Je me tourne d'ailleurs du côté de Roger cette fois-ci. Qui va nous parler d'Yvon Deschamps.
C'est ça, c'est le spécial 70e anniversaire du Sélection du Reader's Digest, 70e anniversaire de l'installation du Reader's Digest au Québec. Donc, c'est en 1947. Et à cette occasion, on a une très belle photo d'Yvon Deschamps avec son éternel sourire, évidemment, en première page. Et dans le cœur du magazine, on peut lire le compte-rendu d'une interview qu'Yvon Deschamps a accordée à Christian Larsen. Je vous en lis des extraits. Christian Larsen, il dit « J'ai connu Yvon Deschamps à Bonaventure en 1961. Je chantais alors avec Claude Gauthier à la Piouque, une jolie boîte à chansons. Un soir, après le spectacle, un type charmant est venu nous saluer. Ses yeux pétillaient d'intelligence et d'humour. Il s'appelait Yvon Deschamps. On a jasé longtemps et j'ai eu l'impression de rencontrer une âme sœur. Alors il m'a dit « Fais-moi signe si tu viens à Montréal » quand on s'est quitté. L'année suivante, j'arrivais à Montréal avec quelques sous en poche et un précieux talisman de son numéro de téléphone. Je l'ai appelé et il m'a suggéré de louer une chambre près de chez lui, rue Saint-Luc. Ensuite, il l'a installé quand il l'a aidé à s'installer quand son nouvel appartement lui a donné des meubles. Et ensuite, il l'a pas revu 50 ans. Maintenant, 50 ans plus tard, il téléphone à Yvon Deschamps et dit « Je voudrais vous rencontrer pour faire une interview ». Alors, Yvon Deschamps lui a donné rendez-vous à son restaurant, le Singalt, qui se trouve à la Place des Arts. Et nous nous sommes retrouvés comme si nous nous étions quittés la veille. Voici questions et réponses de questions de Christian Larsen et réponses d'Yvon Deschamps. Après notre rencontre en 61, tu as connu une ascension fulgurante. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer dans tout ça, Yvon Deschamps? Au début des années 70, j'avais de la difficulté avec la perception que les gens avaient de mes textes. Moi, j'écrivais une chose et ils en comprenaient une autre. On m'attribuait des responsabilités sociales, des responsabilités politiques, si bien qu'à un moment, j'avais l'impression de porter le Québec sur mes épaules. Je me sentais responsable de tout et de tous. Ça m'a tellement dérangé que j'ai arrêté d'écrire pendant plus de 2 ans, puis après un moment, je me suis dit que je ne pouvais pas m'en priver, qu'ils comprendraient ce qu'ils voudraient et que ce n'était pas mon affaire. Ça s'est calmé ensuite, et dit certains voulaient que je me lance en politique. Pendant 6 mois, par exemple, le Parti québécois m'a pressé de me présenter aux élections de 76. C'est ma femme Judy qui m'a raisonné. Elle m'a dit « Ce que tu peux faire de mieux, Yvon, Qu'est-ce que tu fais? C'est ce que tu fais en ce moment. Qu'est-ce que tu vas faire comme député? Je me suis dit, voyons donc, c'est ridicule. Je suis juste un humoriste, je fais ma job, c'est tout. Je suis un artisan qui travaille tous les jours, beaucoup. Je n'aimais pas travailler, mais j'ai beaucoup travaillé parce que ça me faisait oublier que je n'aimais pas travailler. Et la politique, elle a répondu, j'ai répondu présent tant que René Lévesque était là. Après, j'ai totalement décroché, j'ai préféré m'engager socialement, c'est plus simple. Quand quelqu'un a besoin de moi, je regarde mon agenda, et si je suis libre, je dis oui. C'est beaucoup mieux comme ça, parce que toutes les causes sont bonnes. Comme celle de la nouvelle fondation dont tu t'occupes, oui, la Fondation Yvon Deschamps, Centre-Sud, qui soutient l'association sportive et communautaire du Centre-Sud avec laquelle je travaille depuis 32 ans. Pourquoi le Centre-Sud? Il dit « Je viens d'un quartier ouvrier de la métropole, alors je comprends à quel point le travail de l'association est important. Les gens merveilleux de Centre-Sud changent la vie de milliers d'enfants chaque année depuis 40 ans. Avec le temps, ils ont réussi à construire un lieu extraordinaire où on offre un tas de services aux jeunes du quartier. 75% d'entre eux viennent là pour l'aide aux devoirs ou pour les sports. Le centre offre 10 programmes scolaires différents et là, on a grandi parce qu'il faut en faire plus. » Au mois de septembre 2016, 30% des petits du quartier qui étaient d'âge scolaire ont été déclarés inaptes à commencer l'école. Ce pourcentage est énorme. Même à la retraite, tu continues d'en faire beaucoup. As-tu besoin de t'occuper pour te sentir heureux? Réponse, pas du tout. Je suis un contemplatif. Je n'ai pas besoin de me sentir occupé. La seule chose qui me dérange maintenant, c'est que j'ai des acouphènes. Moi qui aimais tant le silence, méditer, voilà que je n'en aurai plus de silence. Plus jamais. Qu'est-ce qui te nourrit le plus dans cette nouvelle vie? La famille, les amis, les voyages, ta fondation, beaucoup de choses. Évidemment, Larsen parle de sa retraite. Beaucoup de choses. Les premières années de ma retraite, on a beaucoup voyagé. On a tous des lubies. Moi, c'était l'Orient Express, alors je l'ai fait. C'était merveilleux, même si on n'est pas allé jusqu'à Istanbul. On a fait le tour du monde, Judy et moi. Et maintenant, fini les voyages, on est plus tranquille. Quand on a besoin d'évasion, on s'en va dans notre maison en Floride. C'est très cliché, pas original du tout, mais c'est une toute petite maison et on est tout seul. C'est comme une cachette, un havre de paix. On est dans les arbres, dans les fleurs et on respire le calme. Avec le temps, on est devenu très jaloux de notre intimité, après avoir été des personnages publics pendant 40 ans. On a parfois besoin d'être vraiment seuls, tous les deux, dans l'anonymat. Est-ce que la mort te fait peur, Yvon Deschamps? J'ai longtemps été obnubilé par la mort jusqu'à ce que je comprenne que c'est la vie, comme on dit. Sans elle, vivre serait insupportable. Imagine s'il fallait qu'on endure ça éternellement. Bref, ça ne m'angoisse plus du tout. Pas de vie après la mort, alors? Je n'ai aucune spiritualité, aucune. Moi, je vis ma vie, je sais qu'il n'y en a juste une, qu'on n'est pas en répétition. C'est la vraie affaire. Il n'y aura pas de général en costume, je ne crois en rien. Mais en même temps, j'avoue mon ignorance, je vais peut-être être bien surpris. Est-ce que l'humour t'aide à apprivoiser la vieillesse? Et il répond ceci, quand on a un peu le sens de l'humour, les problèmes se règlent plus facilement parce qu'on s'enlève un poids, on les désamorce. C'est sûr qu'en vieillissant, quand tu as un bobo, le fait de pouvoir en rire un peu, ça le rend moins douloureux. Il y a 2 ou 3 ans, j'ai appelé M. Jean Coutu pour lui demander une commandite pour notre centre. Il a accepté tout de suite, puis il m'a demandé « Ça te fait quel âge, Yvon? » Je lui ai répondu que j'allais avoir 80 ans dans 3 semaines et il m'a dit « Tu vas aimer ça, 80 ans. » On a les genoux plus mous, la respiration plus lente. Il sait de quoi il parle, on a fêté ses 90 ans au mois de mai. Si tu avais un souhait à formuler pour les Québécois aujourd'hui, que leur dirais-tu? Je leur souhaite de continuer à s'ouvrir aux autres, d'avoir le courage d'aller vers ceux qui ne nous ressemblent pas de prime abord, mais que finalement sont comme nous, et de savourer le fait de vivre libre dans un monde démocratique, toujours disposé à se remettre en question, mais vivre dans un pays libre et démocratique. Cela comporte aussi des responsabilités. Quel genre? Aller voter. On devrait donner des contraventions aux gens qui ne vont pas voter. Écoute, maudit paresseux, va voter, c'est un devoir de voter. Est-ce que la surabondance nous rend heureux? Dernière question. Notre surabondance est loin d'être synonyme de bonheur. Quand tu pars dans un délire de possession de biens et d'argent, il n'y a jamais de fin, parce que tu n'en as jamais assez. Heureusement qu'il existe des gens exceptionnels, des gens qui valent des milliards, mais qui sont restés humbles, qui savent qu'ils sont privilégiés, donnent et s'engagent dans des causes justes. Un gars comme Bill Gates, par exemple, qui vaut plus de 100 milliards de dollars américains et qui a déclaré qu'il voudrait consacrer la deuxième partie de sa vie à distribuer cet argent-là. Alors, c'est l'interview qu'a donnée Yvon Deschamps à Christian Larsen. C'est rapporté dans la sélection du Reader's Digest du mois d'octobre.
Très inspirant. Merci, Roger. Alors, du côté de Serge Hamelin, maintenant, on s'en va à l'école secondaire.
On s'en va à l'école. Vous en êtes sorti, vous allez y entrer. Alors, peu importe, on va voir ce qui se passe un petit peu à l'intérieur de l'école secondaire. Et ça s'appelle « Le dilemme du secondaire », un article écrit par Rémi Leroux dans la revue « Protégez-vous ». École publique ou privée? Et pour bien des parents, la question est difficile à trancher. Et voici des pistes pour vous aider à y voir plus clair. Zacharie est en cinquième secondaire dans un collège privé de la Rive-Nord. Sa sœur cadette, Marianne, fait sa troisième secondaire dans une école publique, dans un programme enrichi ou spécialisé en sport. La décision d'inscrire l'adolescent au privé n'a pas été simple, explique son père Christian. Mais étant donné que Zacharie avait des troubles de comportement au primaire, ses parents ont opté pour l'école privée en espérant mettre toutes les chances de réussite de son côté. Depuis 5 ans, Zacharie évolue bien dans cet environnement. Son père reconnaît que l'enseignement privé a des avantages. Les élèves y sont notamment bien encadrés. Il doute toutefois que le succès de Zacharie ne soit dû qu'au choix du privé. Une partie s'explique aussi par la médication qu'il prend depuis son entrée au secondaire et surtout par le fait qu'il a cheminé et gagné en maturité. Impossible donc de savoir si l'adolescent aurait aussi bien fait au public. Christian a cependant été bien content d'apprendre que sa fille souhaitait aller à l'école publique car il a toujours ressenti un malaise vis-à-vis des subventions que reçoivent les écoles privées. Comme plusieurs parents qui ont eux-mêmes fréquenté l'école publique, Christian se dit très attaché à cette institution qui a marqué sa jeunesse et qui a été développée sur des valeurs de partage et d'égalité. Le système d'éducation fondé par l'Église catholique, puis repris par l'État dans les années 60, se voulait en effet non sélectif dans le but d'offrir des chances égales à tous. Un système à 3 vitesses. Or, les parents ont désormais le choix entre l'enseignement privé, le public enrichi et le public régulier. Eh bien, dis donc, explique Claude Lessard, professeur émérite de l'Université de Montréal et ex-président du Conseil supérieur de l'éducation. Une école secondaire à 3 vitesses est en train de s'installer durablement au Québec, affirme-t-il. En effet, les écoles publiques multiplient l'offre de programmes particuliers, éducation internationale, sport-études, programmes enrichis en arts, en informatique, en anglais, etc., etc. Elles tentent ainsi de demeurer attrayantes à l'heure où le système d'éducation a subi des compressions budgétaires que la Fédération des commissions scolaires du Québec estime à 1 milliard de dollars. Aucun organisme n'a récemment dénombré les élèves inscrits dans un programme public à projet particulier, mais déjà, en 2007, la CSE estimait que 20 % des adolescents y participaient. En parallèle, 20 % des élèves du secondaire fréquentent une école privée, ce qui est 4 fois plus qu'en 1970 selon le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Sur le territoire de certaines commissions scolaires, comme celle des Découvreurs à Québec, le privé accueille même jusqu'à 42 % des adolescents. Ce sont donc plus de 40 % des élèves du secondaire qui sont scolarisés hors du cursus régulier de l'école publique, constate Stéphane Vigneault. Ce père de famille de Gatineau coordonne les activités de l'école Ensemble, un groupe de parents de plusieurs régions du Québec qui militent pour un nouveau système public renforcé par le retour de la plupart des élèves du privé subventionné et de tous les élèves de projets particuliers sélectifs. Ce groupe n'est pas le seul à militer pour un système d'éducation plus égalitaire. En 2014, Jocelyn McClure, professeur de philosophie à l'Université Laval, dénonçait dans Le Devoir une école à plusieurs vitesses qui contribue à la production des inégalités, alors même que le système scolaire doit favoriser la mobilité sociale ascendante et non la reproduction des classes sociales. Dans son rapport sur l'État et les besoins de l'éducation, 2014-2016, le CSE arrive aux mêmes conclusions. Dans un contexte de concurrence entre les écoles, cette offre à plusieurs vitesses conduit à une logique de quasi-marché et à une tendance au regroupement des élèves en fonction de leur profil scolaire. La Fédération des établissements d'enseignement privé, qui regroupe 193 des 270 établissements privés en activité dans la province, ne partage pas cette vision. Il y a, au Québec, plus de 3000 écoles publiques et privées. Et chacune a une identité en fonction de son milieu et de la communauté qu'elle réunit, affirme le président du regroupement, Jean-Marc Saint-Jacques. Les parents peuvent alors exercer leur libre choix. L'homogénéisation des classes selon différents cursus n'est toutefois pas sans conséquence, croit Claude Lessard. La mixité sociale est moins forte. Des élèves en difficulté se retrouvent en plus grand nombre dans des classes ordinaires et sont moins tirés vers le haut par moins de pairs performants. Des enseignants sont démunis et démotivés par des groupes faibles et très faibles. Le cursus normal s'appauvrit et les écarts de qualité de l'enseignement s'accentuent, détaillait-il dans un article publié dans l'État du Québec 2017. Et puisque des palmarès des écoles reconnaissent ces écarts, un cercle vicieux s'installe, de plus en plus de parents magasinent l'école de leur enfant pour lui assurer la meilleure éducation possible selon les moyens dont ils disposent. L'écueil du financement public des écoles privées. Pour de nombreux défenseurs de l'école publique, ce sont les subventions accordées aux écoles privées qui créent des inégalités dans le système d'éducation. Sur le plan de la fréquentation des écoles privées, le Québec est le champion incontesté en Amérique du Nord, en grande partie parce que l'État québécois soutient financièrement ses établissements, ce que la plupart des provinces canadiennes et des États américains ne font pas, avance Claude Lessard. Or, personne ne s'entend sur le montant total d'argent que les écoles privées reçoivent. Selon le FEEP, ses membres ne touchent que 60 % du montant qu'accorde l'État pour les services éducatifs offerts à chaque élève. Et à cette subvention peuvent toutefois s'ajouter des allocations supplémentaires pour des programmes spéciaux ou des services éducatifs autres que ceux financés par la subvention, ainsi que des subventions au transport scolaire, précise le MEES sur son site Internet. Ainsi, le rapport du comité d'experts sur le financement, l'administration, la gestion et la gouvernance des commissions scolaires, produit en 2014 à la demande du MEES, avance plutôt le pourcentage de 75 %.
Donc, c'est vraiment des dilemmes pour les parents, pour dire est-ce que je choisis en des choix sociétals aussi et des choix individuels pour son enfant.
Quelque chose, hein?
Mais Roger, irons-nous encore à l'école avec notre corps dans quelques années?
Il semblerait que c'est une question qu'il faut se poser. Parce qu'on va avoir toutes sortes de développements qui vont survenir dans un avenir quand même assez proche. Et
la
revue Relations, dans son édition du mois d'octobre, propose à ses lecteurs un dossier sur l'idéologie transhumaniste. Je vais vous dire, vous allez comprendre tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire, là, l'idéologie transhumaniste. On peut y lire des textes portant sur la réflexion comme le technoprophète ou un savant fou. Nous ne sommes pas des machines, les acteurs du transhumanisme. Pour vous donner une idée de ce qui fait l'objet de ce dossier volumineux, je vais vous lire des extraits du texte de Jean-Claude Ravet. Il appelle son texte « Le corps obsolète, point d'interrogation ». Les idées du transhumanisme séduisent de plus en plus le cercle des philosophes et des scientifiques. Cette idéologie qui a son terreau dans la Silicon Valley prône l'augmentation de nos capacités physiques et mentales et l'amélioration de l'espèce humaine grâce à son hybridation étroite avec la technique par le biais de différentes technologies de pointe, la bio et la nanotechnologie, l'intelligence artificielle, le génie génétique, l'informatique, etc. Les transnationales comme Google, Amazon, PayPal, Apple, Facebook financent grassement les recherches dans cette direction. La manipulation génétique, l'eugénisme, l'expérimentation sur l'humain, l'homme nouveau, entre guillemets, la race supérieure, toujours entre guillemets, qui faisait frémir sous l'horizon plombé du nazisme et du stalinisme, trouve désormais un vernis de respectabilité sous le ciel radieux du « progrès » entre guillemets scientifique. Tout cela se réalise non plus à travers la guerre, au moins jusqu'à présent, car le complexe militaro-industriel s'y intéresse fortement, mais par le fatalisme des petits faits. Ça, c'est Nietzsche qui disait ça. Le fatalisme des petits faits. Selon la règle d'or de la technoscience, ce qui est possible doit être fait. Les transhumanistes y voient là une condition sine qua non de la survie de l'espèce face au pouvoir annoncé des robots et des ordinateurs. Mais ne serait-ce pas plutôt le fruit mûr d'un long processus de déracinement et d'aliénation du monde propre à la modernité capitaliste qui a façonné l'Occident et qui maintenant domine la planète? Porté par la promesse de maîtrise et de domination de la nature, on a réduit la nature à un espace à conquérir et pour ce faire, on l'a rationalisé, objectivé à outrance. Ce qui est désormais, ce doit d'être mathématisable, maîtrisable, mesurable, quantifiable. De vastes pans de l'existence échappent à la logique quantifiable, calculatrice, deviennent ainsi superflus. Ça ne compte plus. Le réel se confond dès lors avec le regard que porte la science sur lui. La coupure radicale de l'humain et du vivant, comme s'il n'en était pas partie prenante, a propulsé l'essor des sciences et des techniques, mais a abouti à chosifier l'humain et le monde. La méthode scientifique nous ouvre au réel, mais ne l'épuise pas. La clarté que la science répand sur le monde s'apparente moins à un éclat du soleil qu'au halo d'un réverbère. C'est cela qui en fait le prix, et c'est ce prix qu'elle perd quand on prend le réverbère pour le soleil. Ça, c'est Olivier Ray qui disait ça dans un ouvrage publié en 2003. Prenons l'exemple, et je vais terminer là-dessus, prenons l'exemple du système CRISPR qui a fait récemment les manchettes. Cette méthode permet de cibler la partie défectueuse de gènes à l'origine de maladies héréditaires et de la remplacer par une copie saine. Vantant l'efficacité du procédé, les chercheurs en appelaient à élargir la recherche à l'expérimentation humaine. Dans la couverture médiatique enthousiaste, aucune mention toutefois d'une recherche, rendue publique en mai dernier, relatant l'observation inquiétante de multiples mutations dans les régions autres que les gènes modifiés, notamment dans la zone appelée ADN poubelle, parce que ses fonctions biologiques n'ont pu être identifiées jusqu'à maintenant, mais qui représentent près de 99 % du génome. C'est très scientifique, mais je veux dire, on ne voit pas toujours les répercussions de ce qu'on entreprend. Si la recherche ayant abouti à la méthode CRISPR ne relève pas du transhumanisme, elle repose néanmoins sur le même présupposé propre à l'idéologie scientiste dominante qui réduit la vie aux mécanismes qui la rend possible, autorisant à fragmenter les organismes vivants en pièces détachées qu'on peut réparer à son gré en changeant la pièce défectueuse par une œuvre comme s'il s'agissait de simples artefacts, sans se préoccuper du fait que dans le monde du vivant, la totalité dépasse la somme de ses éléments. La science, hein? Les vertus de la science qu'on est en train d'édifier, évidemment, c'est l'idéologie dominante. Le transhumanisme en question, « Le corps est-il obsolète ?» par Jean-Claude Rivet, c'est dans la revue Relations.
Oui, c'est ça. Si vous voulez poursuivre et lire tout le reste du dossier ou même de l'article, je vous remercie, messieurs. Et je voulais, en terminant, vous inviter, si vous êtes abonné au magazine Virage de la FADOC, à aller consulter l'article « Lire avec ses oreilles » qu'on trouve dans le numéro de septembre 2017, puisqu'on y parle du Service québécois du livre adapté et de la mission de Visez-Voix. Okay. Alors, sur ce, ben, messieurs, la semaine prochaine, c'est l'Action de grâce, donc un petit congé pour les voies de service du lundi. Et on souhaite un bon voyage à Serge qui s'en va en Chine. Au revoir, tout le monde.